Solidarité avec les sans-papiers.
J'entends moi.
Ils sont mis des papas
oui.
Ou des mamans en prison.
Solidarité avec les sans-papiers.
RESF, Réseau Éducation Sans Frontières, sur Fréquence Paris Pluriel 106.3.
C'est toujours sympa de dire merde. Hein. Les tests, ceux sont d'un autre âge. Il te dit merde, mon cartilage. Les tests,
ceux
sont d'un
autre âge.
Il te dit
merde,
mon cartilage.
Bonjour. Bonjour. Comme tous les mercredis de 18h à 19h, vous êtes à l'écoute de RESF, un réseau éducation sans frontières sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 à Paris et proche banlieue, ou www.rfpp.net. pour nous suivre en streaming partout dans le monde. Et cette émission sera rediffusée mardi matin de 7h à 8h et très bientôt téléchargeable. Mais ça, faudra attendre la fin de la semaine sur le site RESF, hein, resf.info/radio. Et bien sûr, vous pouvez nous écrire à resf.fpp@gmail.com ou bien... émission RESF, Radio Fréquence Paris Pluriel, 1 rue de la Solidarité, 75 019 Paris. Donc aujourd'hui, eh bien, c'est une émission spéciale, délinquant de la Solidarité. Délinquant de la Solidarité, hein, et le studio est rempli, enfin, il va continuer à se remplir parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas encore arrivés, qui n'ont pas pu arriver, mais qui vont arriver en cours d'émission. Donc le studio devrait se remplir de délinquantes et délinquantes et de représentants du roi, du droit, mais assurément solidaire. Et donc, on peut être... Et nos représentants du droit sont peut-être un petit peu aussi délinquants sur les bords et assurément solidaires. Donc si on... Si on regarde la composition prévue du plateau, pardonnez-nous l'expression, mais on pourrait croire à une seule audience, puisqu'on est entre autres, donc ça, on est avec des délinquants solidaires, je l'ai dit, mais donc un procureur qui est ici, un avocat qui devrait arriver, mais donc tous un peu délinquants et très solidaires. Pas de procès, rassurez-vous, si ce n'est celui du délit de la solidarité, peut-être. Donc nous sommes donc en compagnie de Patrick Henriot, hein, tu es magistrat. Bonjour Patrick.
Oui, bonjour.
Donc tu es magistrat, tu es membre du syndicat de la magistrature, membre du GISTI.
Oui, les deux.
Les deux, voilà.
Les deux casquettes portées fièrement.
Voilà.
En même temps.
Donc on est en compagnie de Aubépine, hein, Aubépine Dahan. Bonjour Aubépine.
Bonjour Yves.
Voilà, donc toi tu es ici parce que tu as été placé plusieurs fois en garde à vue. Une fois en garde à vue, et ça tu vas nous en parler, hein, c'était pour avoir soi-disant organisé une manifestation illégale l'été dernier, et tu as été relaxé dans cette affaire, et tu étais avec Oussam qui vient de nous rejoindre. Bonjour Oussam.
Bonjour.
Donc tu étais donc aussi mis en garde à vue, poursuivi dans ce procès un petit peu curieux.
J'en ai un deuxième.
Oui, j'allais en parler. T'as un deuxième procès pour une autre raison.
Une rafle.
Voilà, hein, t'as été pris dans une rafle. Et tu es venu accompagné de...
Mohamed,
voilà. Et donc, on devrait recevoir aussi à Iptis Gwen qui est là, bien sûr. Bonjour Gwen.
Bonjour.
Toi, Gwen, tu as aussi.
Moi, je suis inculpée pour outrage sur le préfet de région Jean-François Caranco. Mon délibéré n'a pas encore été donné, il le sera donné demain matin.
Voilà, hein, et donc ça, c'était. Tu es passé en procès.
Je suis en procès. Mon audience s'est passée jeudi dernier, le matin. Et donc, le délibéré a été reporté à une semaine.
Voilà. Et puis, je crois que Ibtissam vient de nous rejoindre par téléphone. Allô, Ibtissam ?
Bonjour.
Oui, bonjour Ibtissam, comment vas-tu ?
Bien.
Voilà. Et donc toi, tu es, bah, on était aussi ensemble la semaine dernière, bah, toujours par téléphone. Mm-hmm. Et donc toi, tu n'es pas encore poursuivi en justice, mais par contre, le problème qui vient de très grave, qui vient de t'arriver, c'est que dans le cadre de, suite au décès de d'Enko Sissoko, hein, qui s'était défenestré, tu as parler publiquement d'un rapport que tu avais fait sur les conditions d'accueil des mineurs isolés.
Tout à fait, je suis déléguée du personnel et suite au décès d'Enko Sissoko, j'ai parlé par voie de presse, j'ai demandé les conditions de travail et d'accueil des mineurs isolés de ce service. Et depuis le 30 janvier, je suis mise à pied conservatoire en vue d'une procédure de licenciement pour faute grave.
Ouais.
Après 16 années de long et brouillé service, et la gouvernance de mon association parle, à qui veut l'entendre, par aussi écrit, de diffamation. Voilà, on vous propose la diffamation.
Voilà, donc ça on n'en parlait pas vraiment de diffamation la semaine dernière.
Si, en fait, sur le motif du licenciement, on parle de dénigrement d'entreprise, avec une critique de la politique départementale qui est notre financeur.
Ouais.
Et sur courrier, on a un courrier qui a été envoyé à tous les salariés le 18 janvier, mon employeur parle de propos diffamatoires et qu'il demandera à des préjudices à ce titre-là. Je ne sais pas s'il a engagé quelque chose, pas à ma connaissance, mais c'est quand même assez impressionnant que tous les salariés reçoivent des choses... reçoivent des choses chacun à leur tour en parlant de propos diffamatoires.
Mmh. Mais tes propos ne sont absolument pas diffamatoires, bien sûr.
Ah non, du tout. Moi, dans les parvois de presse, j'ai tout simplement dénoncé les conditions d'accueil des mineurs isolés de Châlons-en-Champagne.
Ouais.
Avoir 4 éducateurs pour 73 jeunes, un mélange de mineurs avérés, donc 36, avec le reste en cours d'évaluation, dans un bâtiment qu'on partage avec d'autres adultes avec un profil particulier, c'est-à-dire des adultes qui ont apparemment des soucis d'addiction. Tout ça dans un bâtiment sans aile distincte. Moi, quand j'avais été le 23 décembre, parce que j'ai appris sur le tard les conditions d'accueil, je ne connaissais pas ce service. C'est un service expérimental. Et ben, le jeune garçon qui m'a fait visiter sa chambre avec 15 ans, et il n'a par exemple pas de chambre de douche dans sa chambre, et il partage les douches collectives avec tout ce monde-là. Dans un quartier sur un territoire difficile, pas de personnel la nuit à partir de 18h. Suite au décès du Denko Sissoko, il y avait déjà une réflexion entre élus autour de ces conditions d'accueil qu'on apprenait, parce que c'est un service expérimental et on avait très peu d'informations là-dessus. Et j'étais quand même assez choquée de constater qu'il y avait au sein du département deux protections de l'enfance, une voie de garage et une voie royale. En l'occurrence, les mineurs isolés, pour moi, bénéficient d'une voie garage parce que il n'y a pas assez d'encadrants pour un suivi socio-éducatif. Qu'un jeune qui a par exemple 15 ans et qui est scolarisé, bah, il croise très peu de temps à un éducateur qui peut s'occuper de lui, qui n'a pas de budget alloué aux activités. Que les mineurs isolés en cours d'évaluation ne font rien de leur journée,
ouais.
Ils sont inscrits nulle part, qu'il n'y avait pas de prise en charge, en tout cas à l'époque, en tout cas avant le décès d'Enko Sissoko, psychologique, pas de temps de psychologue. Donc pour moi, les conditions qui sont normalement nécessaires pour une prise en charge de la protection de l'enfance, les ingrédients n'y étaient pas.
Mmh.
Voilà. Donc j'ai dénoncé ces conditions d'accueil et très rapidement, ça fait 16 ans que je suis à la sauvegarde et ça faisait au moins une dizaine d'années que j'avais pas reçu un courrier pareil.
Ouais.
J'ai reçu un premier courrier en vue d'une sanction disciplinaire, et puis une semaine plus tard, c'était un second courrier, là où on mettait le projet du licenciement. Et quand j'ai été convoquée par ma direction, on parle de propos diffamatoires, enfin de dénigrement d'entreprise.
Mm-hmm.
On me reproche aussi, en tant que délégué du personnel, normalement un droit d'expression, et on a tous un droit d'expression, il doit être d'autant plus grand en tant que délégué du personnel, et on me reproche, alors que j'ai un contrat de droit privé,
ouais.
Je ne suis pas dans le devoir de réserve, d'avoir critiqué la politique migratoire du département. Ça aussi, c'est aussi assez particulier. Donc, moi, le questionnement que j'ai par rapport à ça, c'est bien évidemment, je vais défendre ma position et un salarié protégé, c'est une procédure particulière, donc je défendrai ma position auprès d'inspecteur du travail.
Mais
moi, délégué du personnel, je ne peux pas dénoncer les conditions d'accueil de ces mineurs. Je vous laisse dire, les salariés qui travaillent, la marge de manœuvre qu'ils ont au niveau de la liberté. C'est-à-dire que ça pose une question quand on est travailleur social pour une association avec une délégation de mission de service public, de ne pas avoir à un moment donné la capacité ou la possibilité de dire là ça va pas, il faut revoir les choses et tout de suite vous sanctionner, de perdre votre travail, de votre salaire. Voilà, cette histoire me mine beaucoup parce que je savais que les questions des mineurs isolés faisaient débat en France. Mmh. Je ne savais pas qu'à ce point-là, les travailleurs sociaux, en substance, on attend d'eux qu'ils soient la main d'une politique migratoire d'un département, d'élus politiques, alors que là, encore une fois, les travailleurs sociaux doivent être des résistants aux dérives politiques, des résistants aux dérives des droits fondamentaux, et que c'est bien nous qui sommes entre l'interface entre ces jeunes et la société, et qu'on doit à un moment donné poser des choses au nom de leur bien-être, et puis encore une fois, au nom du respect des droits fondamentaux.
Voilà, et donc, toi, dans le respect de ton... Enfin, je veux dire, tu interviens, tu manifestes ta solidarité et tu te retrouves mis en examen, et pas mis en examen, mais en voie de licenciement. Et donc, avec tout ça, c'est finalement toute une partie de ton et de ton droit à la solidarité et de ton droit d'expression, ton droit syndical qui est menacé.
Tout à fait. C'est quand même assez... Enfin, moi, je trouve que, surtout quand vous êtes travailleur social, normalement, il y a un article 48, il me semble, de la loi 2002, qui vous dit que quand vous assistez à des privations de liberté ou alors à des mauvais traitements, vous êtes en droit d'alerter et même votre devoir d'alerter, il ne doit pas y avoir de sanctions à cet égard, ni de, par rapport à vos contrats de travail, de promotion. Et ce qui m'inquiète, en fait, c'est que même si vous avez des lois, c'est-à-dire que même si vous avez un dispositif de l'aide sociale en France, dont tout le monde devrait relever, même si vous avez un droit à l'expression en tant que citoyen, même si vous avez un droit fondamental syndical, et ben malgré tout ça, et ben c'est moi qui me retrouve en difficulté.
Alors je vois là, il y a Aubépine qui est avec nous, qui voulait réagir.
Parce que je trouve intéressant.
Alors, je ne sais pas si tu as entendu, mais Aubépine qui est aussi d'ailleurs qui vient aussi de passer en procès pour. Pour un délit de solidarité.
On a eu le temps de s'en remettre. Ce que je trouve intéressant dans ce que tu as dit, petit Sam, c'est le choc, qui est l'état de choc dans lequel ça peut mettre d'être soit inculpé, soit poursuivi, soit menacé de licenciement ou procédure disciplinaire ou autre, alors qu'on a fait quelque chose qu'on pensait être tout à fait normal on n'avait pas du tout l'intention... L'intention de commettre un délit, c'est, je pense que il y a certaines personnes qui font des choses en sachant qu'elles commettent un délit, mais elles le font parce qu'elles estiment que c'est légitime. Et ça peut aussi nous arriver à tous, dans les circonstances actuelles. Mais il y a beaucoup de cas où les gens n'avaient même pas l'idée qu'ils étaient en train de faire quelque chose de délictuel, quoi. Ce qui était également notre cas à Oussam et à moi quand on a déposé une manifestation. Et je pense que un rassemblement. Et je pense que ce que ça révèle derrière ce délit de solidarité aujourd'hui, derrière toutes ces personnes qui sont poursuivies, c'est le refus d'un État, d'un gouvernement, d'autorité, d'avoir un débat politique et de rejeter toutes ces affaires dans le domaine purement judiciaire et purement délictuel. Et ça permet d'une part de stigmatiser les gens comme des délinquants, et d'autre part d'éviter que le débat prenne place dans l'arène politique, et ça reste des histoires de délinquants, des gens qui font des choses en dehors du droit. Voilà, comme ça, ça permet d'évacuer le débat.
Tout à fait, et puis je dirais même aussi qu'on vous pointe comme agitateur, on vous isole, parce que c'est bien ce qui a failli se passer quand même, c'est qu'à un moment donné, on isole, elle fait du mal à l'entreprise, vous allez perdre votre emploi à cause d'elle, le département c'est nos financeurs, et donc du coup la parole, il y a la culture de la peur qui s'installe dans l'entreprise, et puis on va pas parler de ça, mais le fond du problème c'est bien que nous sommes dans un état de droit, qu'on a le droit à l'expression, qu'on a le droit de manifester une opinion, et que moi ça me fait peur tout de même de voir ce genre de dérive à ce droit à la parole et à l'expression plutôt que de se mettre autour d'une table et discuter et trouver des solutions et de parler. Moi, franchement, cette histoire m'interpelle énormément. Ça m'ébranle même.
Et Patrick Henriot, donc est magistrat, voulait réagir aussi.
Oui, une toute petite réaction très brève. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans ce que tu viens de dire, c'est ce qu'on te reproche en termes de mise en cause de la politique migratoire du département. Je trouve que c'est très, très, très révélateur. C'est-à-dire qu'en réalité, que ce soit l'institution qui t'emploie, que ce soit le préfet, que ce soit le procureur de la République, tous ces gens-là, ce qu'ils ne veulent pas, c'est qu'on conteste, et le droit de contestation appartient à tout le monde, mais ils ne veulent pas que publiquement on remette en cause une politique migratoire qui est catastrophique, qui produit des effets désastreux pour les gens, mais il est hors de question que qui que ce soit remette ça en cause. Et c'est ça, en fait, qui est vraiment le fil rouge de toutes ces affaires, c'est que, d'une façon ou d'une autre, soit en aidant des gens, soit en faisant son boulot de délégué du personnel, soit simplement en régissant comme citoyen, eh bien, d'une façon ou d'une autre, on met en cause une politique. Et c'est ça que le gouvernement, et non seulement le gouvernement, mais tous les représentants de toutes les institutions, de tous les pouvoirs, ne supportent pas.
Ça, c'est ce qui m'a ébranlé. Vous savez pourquoi ? Parce que je suis inscrite à la Sorbonne pour la prépa à la Vénienne. Et je pensais naïvement que le magistrat avait à un moment donné une part d'impartialité. Et quand je me suis retrouvée dans cette affaire et que j'ai vu la position du procureur, et bien en fait, je me suis pris une grosse claque. Je ne sais même pas si j'irai jusqu'au bout de la prépa, parce que je me suis dit, mais quand même, il y avait eu un décès d'un jeune, vous avez des conditions d'accueil qui ne sont pas classiques. Et la réponse du procureur dans les médias, c'est de dire, il n'y a pas de délaissement mineur à partir de 15 ans. Et voilà, et ça me, dans le fondement même de nos institutions, ça me pose vraiment question. J'étais quelqu'un qui avait foi en cette démocratie, je suis quelqu'un qui avait foi en nos institutions, et ben cette affaire me met en pleine face que non, nos institutions commencent à être touchées dans leur substance, dans leur rôle de régulateur, et que par exemple le département est à la voix juge et conseilleur. C'est nos financeurs, c'est lui qui applique des politiques, c'est lui qui décide de tout. Et en fait, il tient tout le monde et on devrait se taire et appliquer ça. Moi, je suis pas d'accord. Je suis travailleuse sociale et j'estime, ça me fait penser à l'époque de la guerre d'Algérie quand vous aviez des assistantes sociales qui avaient refusé de pratiquer certaines choses. Et moi, je pense qu'à partir du moment où on touche aux travailleurs sociaux et on touche à leur capacité de réflexion et à leur capacité de résistance, c'est que ça commence à devenir extrêmement inquiétant. Voilà. Je ne sais pas si je suis claire dans mon propos.
Bien sûr, tout à fait. Oussam, je crois que Oussam aussi, qui est avec nous et qui lui aussi est poursuivi. On est, je crois, à son deuxième procès maintenant. Et donc, vous
voulez... Je passerai en mai.
Hein ?
Je passerai en mai la veille du second tour.
Mais on va reparler de ton...
Non, mais moi ce qui me faisait réagir, je partage un peu tout ce que tu as dit. Il y avait juste deux points. Enfin, t'as commencé en disant que tu t'étonnais de la situation et t'as fini en disant que ça te rappelait la guerre d'Algérie, tout ça. Et moi, voilà, je suis pas sûr. Enfin, je sens bien, comme tout le monde, une dérive autoritaire, réactionnaire en France. Mais je pense que quand il s'agit d'étrangers, d'immigrés, de noirs, de musulmans dans ce pays-là, c'est normal, c'est pas acceptable et c'est pas légitime, mais c'est normal que le droit on se torche avec, que des pratiques policières soient admises et que, in fine, des morts ne comptent pas. Et que c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte dans l'engagement ou le non-engagement ou jusqu'où certaines personnes vont ou ne vont pas. Et je pense, voilà, enfin, que c'est aussi un petit peu ce que raconte cette histoire, parce que, enfin, par exemple, ça fait deux jours qu'avec Mohamed et d'autres on est au tribunal administratif de Cergy pour empêcher des gens de se faire transférer en Italie. Il y en a plein. En Italie,
En procédure Dublin.
En Italie, les faits sont avérés que, d'un point de vue systémique, le système d'asile en Italie est défaillant. On sait qu'on électrocute des gens pour les forcer à prendre leurs empreintes. On sait qu'on fait des choses extrêmement violentes là-bas. Et pourtant, quand on arrive à la préfecture, ça faisait deux fois, la préfecture ne prend pas la peine d'envoyer un avocat parce que c'est pas le sujet. Elle donne 48 heures aux gens pour faire un recours, étant persuadée que les gens n'arriveront pas à faire ce recours-là. Ils font ce recours-là, la préfecture ne prend pas la peine d'envoyer l'avocat. Le traducteur, des fois il vient, des fois il vient pas. Et depuis le début, pour les gens que je connais autour de la table, tout ce qu'on constate, c'est que même le droit des étrangers, qui est déjà un droit d'exception, on le bafoue tous les jours, quoi. Chaque jour, on arrache une page, comme pour le droit du travail, sans doute. Donc, du coup, ça pose aussi la question, à mon avis, du rapport qu'on doit avoir au droit. S'appuyer dessus pour le défendre, mais toujours peut-être avoir un objectif un petit peu autre.
Voilà. Allô ?
Oui.
Oui,
oui. Je voulais réagir sur l'éventualité d'un choc ou d'une surprise sur la mise en puissance, la dite mise en puissance des inculpations et tout ça. Néanmoins, quand même, moi, depuis que je me suis mobilisée autour de la question, il y a quand même une logique qui est inévitable et qu'on a pu constater, c'est que avant d'essayer de nous faire taire, nous, personnes solidaires, il a quand même été question pendant très longtemps de faire taire les exilés eux-mêmes. Et qu'au moment où ils se mobilisaient, ils étaient méprisés dans leurs revendications par l'État, par les municipalités, par les préfectures. Donc à partir d'un moment où la mobilisation n'a plus permis d'essayer de faire entendre leur voix, parce que c'était déjà extrêmement compliqué, eh bien effectivement, moi je sais que le moment où moi je suis passée à un outrage auprès du préfet, c'est parce que j'étais absolument atterrée sur le silence qu'il y avait face à une situation qu'on n'arrivait même plus à dénoncer. Donc effectivement, on en arrive à des situations où maintenant, à l'intérieur même des centres, il continue à y avoir des exilés qui se mobilisent, comme à Massy-Palaiseau, pour dénoncer tout ce qui se passe. Néanmoins, à ces moments-là, ils sont aussi criminalisés. Et à ces moments-là, la solidarité, à un moment, elle était bien petite pour pouvoir essayer de faire entendre ces positionnements-là. Maintenant, ça concerne des personnes solidaires, donc effectivement, ça réagit un peu plus. Mais moi, je ne suis pas choquée de ce qui nous arrive. C'est juste une suite logique, sauf que maintenant, ce n'est plus les exilés eux-mêmes qui le subissent et qui le subissent encore. Et ils le paient beaucoup plus cher.
À une autre échelle.
Ils le paient beaucoup plus cher. Et nous, néanmoins, nous avons des droits. Alors effectivement, je suis d'accord, si le droit syndical est bafoué, c'est pas nouveau non plus, dans les mobilisations sociales, sur tous les mouvements sociaux, c'est arrivé. Donc effectivement, mais je pense que ce qui est assez emblématique, et je rejoindrai un peu sur le fait du droit d'exception sur le droit des étrangers, c'est qu'effectivement, oui, tout d'un coup, on est en train de bousculer quelque chose qui est rendu visible par nos propres inculpations. Et c'est là où ça devient intéressant, parce que par la visibilisation de notre situation, en fait, ce qu'il y a à regarder en miroir, c'est qu'est-ce qui se passe pour les exilés eux-mêmes. Parce que eux, ce qu'ils risquent, c'est bien plus. C'est effectivement des durcissements de la situation, comme en ce moment même, il est en train d'être voté à Malte sur le processus de Valette, où on est en train d'améliorer les processus d'expulsion. Oui, et tout ça est extrêmement inquiétant.
Oui, non, mais ça, on est bien d'accord. Là, aujourd'hui, on a fait une émission spéciale sur les délits de solidarité. Maintenant, sur processus de Malte, on en a fait et on continue à en faire.
Mais juste sur ce point-là, justement, sur le délit de solidarité, ouais. Moi, ce que je trouve que ça raconte, on l'a écrit assez tôt, c'est que ce qui est intéressant, c'est la criminalisation en général, elle raconte une chose très simple, finalement, c'est que les pouvoirs publics décident de ce qu'est la solidarité.
Absolument.
Et en fait, la solidarité, ça veut dire, telle qu'elle est conçue et pensée par les acteurs publics, c'est de la charité.
Mmh.
Tout ce qui excède la charité et qui postule de l'égalité, a envie de produire de l'indistinction entre des gens qui sont ici et des gens qui viennent de là-bas et qui sont ici quand même, ou qui estiment qu'il faut faire fi d'une appartenance administrative. Bref, qu'il faut refuser des assignations de rôle, de place, liées à des situations sociales, administratives, de genre, tout ce que vous voudrez, tout ça, c'est suspect. Et c'est tellement suspect qu'il faut vite le foutre en l'air. Et donc la question que ça pose, à la fin des fins, qu'il faut poser à mon avis très clairement à l'État, c'est est-ce que vous bossez pour le Front National en prétendant lutter contre lui. Voilà, c'est tout.
Patrick ?
Oui, donc je voulais réagir sur le... Au fond, qu'est-ce qui est reproché à travers ce délit de solidarité ? Tu disais il y a un instant, au fond, la seule chose que l'État accepte, c'est qu'on fasse de l'hospitalité. C'est même pas ça.
La charité.
La charité. C'est même pas ça. C'est même pas ça parce que dans les délits de solidarité, l'un des plus importants, celui qui est le plus souvent poursuivi, c'est la fameuse aide à l'entrée et au séjour irréguliers.